Bonjour, bonsoir les amis, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Une fois de plus, depuis mon domicile, je renoue le contact avec vous tous dans ce nouveau programme de RAE, l'Argentine vers le monde en 8 langues, avec la production de Silvana Avellaneda et Julien Cortés, responsables du site web. À partir de la semaine dernière, RAE en langue française s'émet du lundi au vendredi de 23h30 à 0h UTC pour l'Europe et l'Amérique du Nord sur la fréquence de 7780 kHz. Par ailleurs, nous continuons à publier sur www.rae.com.ar l'information officielle actualisée sur la situation en Argentine. Sur notre site web sont aussi disponibles différentes rubriques et des podcasts à télécharger ou à écouter en ligne, et nous maintenons le système d'ondes courtes du relais WRMI avec des programmes déjà diffusés. En Argentine, la quarantaine obligatoire est maintenue jusqu'au 26 avril dans le cadre de la lutte mondiale pour arrêter les ravages du Covid-19. Jour à jour, nos auditeurs peuvent trouver le rapport sanitaire officiel du gouvernement argentin sur notre site web www.rae.com.ar. Ils trouveront également les nouveaux schémas de transmission par ondes courtes, puisqu'en streaming, quotidiennement, ils peuvent accéder à la programmation commune de Radio Nationale Argentine dans la plupart des signaux AM, FM et RAE. En Argentine, seules 2 des 24 provinces n'ont pas de cas de coronavirus. Catamarca, dans le nord-ouest du pays, où depuis la première semaine de mars, la quarantaine a été déclarée obligatoire, ainsi que le port de masques dans les lieux publics. De même, à Formosa, au nord-est de l'Argentine, paradoxalement la province la plus pauvre du pays, selon les dernières estimations sociales faites avant la crise provoquée par la pandémie. Au milieu des préoccupations croissantes concernant la situation économique du pays, le président Alberto Fernández a déclaré mercredi que son gouvernement ne laissera pas les entreprises tomber et les Argentins perdre leur emploi. Il a également confirmé que le pays est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup à faire. Et a de nouveau souligné que l'important est de sauver des vies, car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'émergence due au Covid-19 est arrivée dans le pays au milieu d'une récession héritée après 4 ans de baisse de l'emploi, et avec une inflation croissante des coûts quotidiens de la nourriture et des services. En fait, le gouvernement lui-même a reconnu officiellement qu'avant mars, au moins 40% de la population dans tout le pays n'avait pas d'emploi officiel. C'est-à-dire que 4 Argentins sur 10 gagnaient leur pain quotidien et celui de leur famille grâce à des emplois informels qui ont été supprimés en raison de l'obligation de confinement déclarée par les autorités. Dans ce contexte, les États nationaux et provinciaux, ainsi que les églises et les organisations sociales, ont redoublé leur action d'aide alimentaire dans les zones à plus haut risque socio-économique, principalement en marge des capitales provinciales. De même, l'une des mesures a été de resignifier, comme l'a expliqué le gouvernement Fernández, le rôle de l'armée argentine et des autres forces de sécurité. Ce qui produit aujourd'hui une controverse en Argentine, en raison de leur action pendant la dernière dictature civile militaire. Dans ce cas, Alberto Fernández a souligné le rôle de l'armée, tant en termes de personnel que de fournitures, pour faire face aux éventualités des bidonvilles et des secteurs vulnérables où elle participe aux tâches d'aide alimentaire et sanitaire. Il a également remercié les forces de sécurité d'être descendues dans les rues et d'avoir pris le risque de la contagion pour préserver les Argentins. Dans tout le pays, les modules de soins aux patients infectés par le virus Covid-19 sont construits à contre-courant, car le comité d'experts convoqué par cette crise prévoit que le pic d'infection et de contagion sera atteint à la fin de ce mois d'avril et au cours du mois de mai. Et me voici avec ma compagne, Véronica, qui travaille dans le secteur santé, qui peut nous aider un petit peu à réfléchir et surtout à évaluer. Quel est le bilan après un mois de confinement en Argentine?
Après un mois de confinement, on peut dire qu'on a de bons résultats si on compare avec d'autres pays, car on a quelques 1200 contagiés confirmés et 120 quelques décédés. C'est un bon chiffre. C'est toujours triste ou difficile d'annoncer ça comme une bonne nouvelle parce qu'on a des morts, etc. Mais par comparaison avec les autres pays, c'est un bon chiffre. De toute manière, on prévoit dans les mois qui viennent, dans les jours qui viennent, un numéro différent, car on a pu arrêter cela en diminuant les chirurgies, par exemple, et on a moins de mouvements dans les hôpitaux. On faisait que les chirurgies d'urgence ou les oncologiques, et toutes les autres sont arrêtées. Mais on prévoit que dans les mois prochains, dans les jours qui viennent, on aura une augmentation du mouvement, car les chirurgies ou les traitements qui n'étaient pas d'urgence vont l'être.
On voit que le gouvernement qui a hérité une situation sanitaire déplorable du gouvernement de Macri est en train de mettre des bouchées doubles, surtout pour augmenter énormément la quantité de lits d'hôpitaux. Dans la banlieue de Buenos Aires, il y a Tecnópolis, un grand parc. Ils ont installé une espèce d'hôpital de campagne avec des centaines et des centaines de lits, de même sur une base militaire à Campo Imagen. Ils reprennent la construction ou l'amélioration d'hôpitaux en province de Buenos Aires et un peu partout dans le pays. Donc je pense que c'est une bonne mesure, en attendant que le pic vraiment arrive d'ici un mois à peu près.
Exactement. Si on prévoit une augmentation des cas, on a prévu aussi une augmentation des lits pour recevoir ces malades. On a, je crois que quelques 2000 lits préparés ici à Buenos Aires. Et c'est une situation spéciale, c'est pas tous des hôpitaux, c'est comme tu disais tout à l'heure, des hôpitaux qui étaient arrêtés ou pas inaugurés, qui vont être mis en marche, mais aussi des lits qui seront seulement des lits pour recevoir les patients qui n'ont pas besoin d'un respirateur, par exemple. Et aussi, on prévoit la fabrication de ces respirateurs qui sont fondamentaux pour les cas les plus graves. Fin mai, peut-être on aura le pic de l'épidémie, donc il faudra attendre deux mois encore pour pouvoir revenir un peu à la normale. Une autre mesure importante, c'est d'imposer le masque obligatoire pour circuler dans la rue, ici à Buenos Aires, à la capitale, mais petit à petit on fera ça dans tout le pays. C'est une bonne mesure pour freiner la contagion.
En ces temps de confinement et d'isolement, la musique occupe sans doute une place très importante. Je vous propose donc de partager la chanson Resistiré de Ataque 77, un groupe de rock argentin qui est très écouté ces derniers temps et qui est chanté parfois de façon virtuelle entre plusieurs personnes. Resistiré veut dire « je résisterai ».
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. amigos era yo. Cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo.
RFI, Radio France Internationale, nous transmet des nouvelles en différentes langues, dans notre cas en français, sur la pandémie un peu partout dans le monde. Je vous propose un extrait qui nous parle d'un côté de ce que vient de faire cette semaine Donald Trump aux États-Unis, c'est de couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi la situation de beaucoup de Vénézuéliens qui étaient partis en exil en Colombie, et qui maintenant, avec la pandémie, ont perdu leur travail précaire, très souvent leur logement, et sont en train de retourner dans leur pays par milliers.
Ce n'est pas le moment de couper les financements de l'OMS. Voilà la déclaration d'Antonio Guterres, patron de l'ONU, après l'annonce de Donald Trump qui coupe les vivres à l'Agence onusienne pour la santé. La Chine s'inquiète aussi de cette décision. Alors même qu'on décompte désormais plus de 124 000 morts du Covid-19, alors même qu'il continue de tuer des milliers de personnes chaque jour, comme aux États-Unis, plus de 2200 morts de plus hier, un record planétaire depuis le début de la pandémie. Alors donc que la crise continue, Donald Trump a décidé hier de couper les vivres à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS qu'il accuse de n'avoir pas été assez efficace dans la prévention de la crise du Covid-19, d'avoir trop souvent pris le parti de Pékin. Le financement américain est donc suspendu. La réaction de l'ONU n'a pas tardé. Antonio Guterres l'affirme. Ce n'est pas du tout le moment de réduire le financement de toute ONG impliquée dans la lutte contre la pandémie et de l'OMS. Essentiel, selon lui, les explications de notre correspondante à New York, Karine Auten.
Antonio Guterres, fin diplomate, s'est bien abstenu de pointer du doigt Donald Trump directement dans son communiqué. Pourtant, le secrétaire général des Nations Unies a indirectement répondu au président américain en assurant tout d'abord qu'une fois la crise unique surmontée, il serait alors le moment de passer en revue ce qui a amené le monde entier à cette situation sans précédent, comprendre comment le virus est apparu et s'est transmis si vite autour de la planète, et comment les interprétations ont pu être différentes selon les entités de spécialistes, selon lui. Les leçons tirées seront essentielles pour des défis similaires auxquels il faut s'attendre dans le futur, a prévenu le chef de l'ONU, avant de marteler « mais pour l'instant, ce n'est pas le moment de le faire ». Il a redit que l'OMS et ses milliers de diplomates travaillaient au service des États membres et que continuer à soutenir soutenir l'organisation onusienne était fondamental pour gagner la lutte contre le Covid-19. Il a assuré que seule une attitude d'unité et de solidarité permettrait à la communauté internationale de surpasser au mieux cet épisode historique.
C'est dans ce contexte que plusieurs réunions doivent se tenir cet après-midi, alors que le monde entier est menacé par une crise dans la crise, la crise économique dans la crise sanitaire. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international tiennent par vidéoconférence leur réunion de printemps. Le FMI qui prévoit une récession de 3% pour 2020 à l'échelle mondiale, avec des situations encore plus graves pays par pays. Le PIB de la France pourrait reculer de 8% comme celui de la Chine. On craint une récession de 13% au Royaume-Uni. Autre rencontre virtuelle prévue aujourd'hui, celle du G20 Finance qui devrait acter un moratoire des dettes de quelques 76 pays, dont 40 États africains. Étape indispensable pour aider l'Afrique, selon Emmanuel Macron. Le président français plaide toujours pour une annulation pure et simple de la dette des pays les plus pauvres. Des milliers de Vénézuéliens qui avaient émigré en Colombie pour échapper à la crise économique tentent aujourd'hui de retourner au Venezuela. Avec le confinement imposé par le gouvernement colombien, ceux qui vivent du secteur informel n'ont plus les moyens de rester ni d'envoyer de l'argent à leur famille. Georges Marquez est l'un d'entre eux, parti à pied avec sa famille de Bogota, la capitale colombienne. Il marche actuellement vers la frontière vénézuélienne, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Il appelle le président Nicolas Maduro à faciliter ce retour et sollicite aussi l'aide des autorités colombiennes. Écoutez.
La police colombienne nous a laissé passer de ville en ville, mais elle ne nous a pas porté assistance. Ils disent qu'ils ne savent pas si on est contaminé. On comprend la situation dans laquelle se trouve ce pays et le monde en raison de la crise du coronavirus. Mais nous demandons aux autorités colombiennes qu'elles coopèrent avec nous. On a trop marché, les enfants sont fatigués, la route a été difficile. Notre but est d'arriver jusqu'au Venezuela, passer le poste frontière de Cúcuta. À l'entrée au Venezuela, on nous fera passer des examens. Et on devra rester là-bas 18 jours. Ce que m'ont raconté mes amis qui sont là-bas, c'est qu'il n'y a pas de nourriture, qu'on ne reçoit aucune aide. Ils nous enferment 18 jours là-bas comme si on était des prisonniers. Et ça ne doit pas se passer comme ça. Nous demandons l'aide du président Maduro pour qu'il soutienne ceux qui ont migré en Colombie et qui tentent en ce moment de rentrer dans leur pays, le Venezuela.
Suerte que quiere ir fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa.
quiebre la vida. Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca un amparo, ni una ayuda, ni un favor.
Bienvenue à l'actualité du DX, un espace produit par Arnaldo Slaen pour RAE, l'Argentine vers le monde. Nous vous rappelons que tous les rapports de réception corrects seront vérifiés à l'aide d'une carte QSL électronique pour laquelle nous vous demandons d'envoyer vos rapports d'écoute à qslrae@gmail.com. Place maintenant une excellente nouvelle pour les auditeurs d'ondes courtes, car la section espagnole de Radio Taïwan International est de retour sur les ondes courtes à partir du lundi 6 avril pour les destinations et dans les fréquences et horaires suivants. En Amérique du Sud, de 1h à 1h30 UTC sur 5800 kHz. Pour l'Amérique centrale et Cuba, de 2h à 2h30 sur 5010 kHz. Et pour l'Espagne, de 22h à 22h30 UTC sur 7780 kHz. La station informe qu'elle diffusera sur ondes courtes pendant les 30 premières minutes de sa programmation. Depuis un peu plus de deux semaines, Radio Nationale Argentine met à la disposition des citoyens, via Internet, des contenus éducatifs pour accompagner les mesures préventives annoncées par le gouvernement national face à la pandémie de coronavirus. Le site www.radionationale.com.ar est un espace permettant d'accéder à des histoires, des concerts, des radiothéâtres, des divertissements, des reportages, des programmes historiques, des contenus pour enfants, entre autres propositions à partager dans les foyers en période d'isolement. Cet espace, qui reçoit déjà 800 000 visites par jour, propose des contenus éducatifs via Internet destinés à atteindre tous les foyers argentins. Sur le site de la radio publique, on peut apprécier la lecture d'auteurs populaires dans le cadre de Cuentos de Medianoche, Contes de minuit, dirigé par Alejandro Apo avec Quique Pessoa, et Contame una historia, raconte-moi une histoire, où sont récupérées des œuvres d'écrivains latino-américains de la main de Miguel Ángel González. En explorant le site, on peut également trouver des radiothéâtres produits dans Las dos carátulas, dirigé par Nora Massi. Le programme diffuse une dramaturgie nationale et universelle. Des dramaturges et des acteurs de premier plan y participent, interprétant tous les genres de la littérature théâtrale. Comédie populaire, créole grotesque, satire et tragédie. Il y a aussi de la place pour l'histoire sur le site. Le cycle « Histoire de notre histoire » avec Felipe Piña se concentre sur l'histoire au temps présent. L'émission partage des interviews et le développement d'émissions spéciales sur des thèmes spécifiques. Bien entendu, notre radio nationale continue à être le grand soutien de l'information pour d'énormes extensions de notre pays auxquelles seule la radio publique arrive. Continuons avec de brèves nouvelles radiophoniques dans lesquelles la pandémie, qui dévaste la planète, sera le thème central de par son lien précisément avec notre outil de communication bien-aimé, la radio. Nous nous rendons dans la province de Buenos Aires avec une information provenant de la ville de La Plata. Le nouveau directeur de Radio Provincia, Marcelo Figueras, a annoncé la nouvelle programmation de la station de radio officielle de la province de Buenos Aires. En raison de la pandémie de coronavirus et de la quarantaine obligatoire fixée par le gouvernement national, la date de mise en service de ce réseau n'a pas encore été annoncée. Le gouverneur de la province, Axel Kicillof, aura son propre programme sur AM 1270, le lundi de 20h à 21h. Le directeur de la radio animera également un espace dédié aux interviews. Enfin, nous tenons à confirmer que le programme de communication et de radio La Rosa de Tokyo, préparé chaque semaine par Omar José Soma et Arnaldo Slaen, continuera à être diffusé avec un cycle plein de nouveaux thèmes toujours liés à la radio nationale.
500 fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, Carvazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.